Chapitre 2. Laissons faire Dieu. Depuis 24 heures, la comtesse Mao ne décolérait pas. Devant Dirson, qui l'aidait à se vêtir pour le baptême du roi, elle laissa exploser sa rage et son dépit. On aurait pu croire, dolente comme l'était Clémence, qu'elle ne viendrait pas au terme de ses couches. On en voit de plus fortes qui avortent en chemin. Non, elle a tenu ses 9 mois. Elle pouvait nous donner un enfant mort-né, Nanny, son rejeton vit. Au moins, ce pouvait être une fille, point. Il a fallu que ce soit un garçon. Valait-il la peine, ma pauvre Béatrice, d'avoir tant fait et couru si gros périls qui ne sont point encore écartés pour être jouée par le sort de pareille façon? Car Mao, maintenant, était profondément convaincu de n'avoir assassiné le hutin que pour donner à son gendre la couronne de France. Elle regrettait presque de n'avoir pas tué la femme en même temps que le mari, et toute sa haine se tournait à présent contre le nouveau-né qu'elle n'avait pas encore vu, contre le bébé auquel elle allait dans un moment servir de marraine, et dont l'existence à peine éclose mettait un frein à ses ambitions. Cette femme, puissante entre les puissants, richissime, despotique, avait une véritable nature de criminel. Le meurtre était son moyen de prédilection pour infléchir le destin à son profit. Elle aimait en caresser le projet, en respirer le souvenir. Elle y puisait l'excitation des affres, les délectations de la ruse, la joie des triomphes secrets. Si un premier assassinat n'avait pas eu tout le résultat escompté, elle commençait d'accuser le sort d'injustice, se prenait elle-même en pitié et se mettait tout naturellement à chercher la nouvelle tête qui lui faisait obstacle et qu'elle pourrait abattre. Béatrice d'Irson, allant au-devant des pensées de la comtesse, dit lentement, en baissant ses longs cils, « J'ai gardé, madame, un peu de cette bonne farine qui nous a si bien servi pour les dragées du roi ce printemps. »« Tu as bien fait, tu as bien fait, » répondit Mao. « Il vaut mieux être toujours pourvu. Nous avons tant d'ennemis. » Béatrice, qui était pourtant de belle taille, élevait les bras pour arranger la mentonnière de la comtesse et lui poser le manteau sur les épaules. « Vous allez tenir l'enfant, madame. Vous n'aurez plus peut-être cette occasion de si tôt, » reprit-elle. « Ce n'est qu'une poudre, vous savez, et qui s'aperçoit à peine sur le doigt. » Elle parlait d'une voix suave, tentatrice, et comme s'il se fût agi d'une friandise. « Ah non !» s'écria Mao. « Pas pendant un baptême. Cela nous porterait malheur.
Croyez-vous ? C'est une âme sans péché que vous rendriez au ciel.
Et puis, Dieu sait comment mon gendre prendrait la chose. Je n'ai pas oublié le visage qu'il eut quand je le dessillais sur la fin de son frère et l'espèce de froideur qu'il me témoigne depuis. Trop de gens m'accusent à voix basse. C'est assez d'un roi pour l'année. Subissons un moment celui qui vient de nous naître. »
Ce fut une maigre cavalcade presque clandestine qui partit pour Vincennes faire de Jean Ier un chrétien. Et les barons qui avaient préparé leurs atours, attendant d'être conviés à la cérémonie, en furent pour leurs frais. La maladie de la reine, le fait que la naissance ait eu lieu hors de Paris, la grisaille de l'hiver et enfin le peu de joie qu'éprouvait le régent d'avoir un neveu, tout s'accordait pour que ce baptême fût rapidement expédié, comme une formalité. Philippe arriva à Vincennes accompagné de son épouse Jeanne, de Mao, de Gaucher de Châtillon et de quelques écuyers. Il avait négligé d'avertir le reste de la famille. D'ailleurs, Valois parcourait ses fiefs pour s'y faire de l'argent, Évreux était resté à Amiens pour achever la liquidation de l'affaire d'Artois. Quant à Charles de Lamarche, Philippe avait eu la veille une vive altercation avec lui. Lamarche, en l'honneur de la naissance du roi, demandait à son frère l'élévation de son apanage en pairie, ainsi qu'un accroissement de ses revenus.
« Eh, mon frère, » avait répondu Philippe, « je ne suis que le régent. Le roi seul pourra vous conférer la pairie, à sa majorité. »
Les premiers mots de Bouville, en accueillant le régent dans l'avant-cour du manoir, furent pour demander.
« Personne n'a d'armes, monseigneur. Personne ne porte dague, ni stylet, ni miséricorde. »
On ne pouvait savoir si cette inquiétude visait les gens d'escorte ou les parrains eux-mêmes.
« Je n'ai pas coutume, Bouville, » répondit le régent, « d'être suivi d'écuyers désarmés. »
Bouville, à la fois timide et obstiné, pria les écuyers de rester dans la première cour. Ce zèle dans la prudence commença d'agacer le régent. « J'apprécie, Bouville, dit-il, le soin avec lequel vous avez veillé au ventre de la reine. Mais vous n'êtes plus curateur. C'est à moi-même et au connétable qu'il appartient maintenant de veiller sur le roi. Nous vous en laissons la charge. N'en abusez point. »
« Monseigneur, monseigneur, balbutia Bouville, je n'avais point dessein de vous offenser, mais il se dit tant de choses dans le royaume. Enfin, je veux que vous voyez que je suis bien fidèle à ma tâche et que j'en sais tout l'honneur. »
Il était peu habile à dissimuler. Il ne pouvait s'empêcher de regarder Mao de biais et de rebaisser les yeux aussitôt.
« Décidément, tout un chacun me soupçonne et se défie de moi, » pensa la comtesse.
Jeanne de Poitiers feignait de ne rien remarquer. Gaucher de Châtillon, qui était hors de l'affaire, brisa la gêne en disant
« Allons, Bouville, ne nous laissez point geler, entrons donc !»
On ne se rendit pas au chevet de la reine. Les nouvelles que donna Madame de Bouville étaient fort alarmantes. La fièvre continuait de dévorer la malade qui se plaignait d'atroces maux de tête et était secouée à tout instant par des nausées.
Son ventre se remet à gonfler comme si elle n'avait point accouché, expliqua Madame de Bouville. Elle ne peut trouver le sommeil, supplie qu'on arrête les cloches qui lui sonnent aux oreilles, et nous parle sans cesse comme si elle s'adressait non point à nous, mais à sa grand-mère, Madame de Hongrie, ou au roi Louis. C'est pitié que de l'entendre ainsi perdre la raison sans pouvoir la faire taire.
20 ans de métier de chambellan auprès de Philippe le Bel avaient laissé au comte de Bouville une longue expérience des cérémonies royales. Combien de baptêmes déjà n'avait-il pas réglés? Les objets rituels furent distribués aux assistants. Bouville et deux gentilshommes de la garde se passèrent au col de longues serviettes blanches dont ils tenaient les extrémités étendues devant eux pour en recouvrir l'un le bassin empli d'eau bénite, l'autre le bassin vide, le troisième la coupe qui contenait le sel. La ventrière prit le crémeau dont on coifferait l'enfant après l'onction. Puis la nourrice s'avança, portant le roi.
« Oh ! La belle fille que voilà !» pensa le connétable.
Madame de Bouville avait fait revêtir à Marie de Cresset une robe de velours rosé avec un peu de fourrure au col et au poignet, et elle avait fait répéter longuement à la jeune femme les gestes qu'elle aurait à accomplir. Le bébé était empaqueté dans un manteau 2 fois plus long que lui, sur lequel était posé un voile de soie violette qui tombait jusqu'au sol, comme une traîne. On se dirigea vers la chapelle du château. Des écuyers ouvraient la marche, tenant des cierges allumés. Le sénéchal de Joinville venait le dernier, soutenu et pourtant chancelant. Néanmoins, il était un peu sorti de sa torpeur habituelle parce que le nouveau-né s'appelait Jean, comme lui-même. La chapelle était tendue de tapisseries et la pierre des fonds garnie de velours violet. À côté se trouvait une table où l'on avait étendu une couverture de menu vert, et par-dessus une nappe fine. Et par-dessus encore, placer des coussins de soie. Quelques grilles à braise ne suffisaient pas à dissiper l'humide froideur. Marie déposa l'enfant sur la table pour le démailloter. Attentive à ne point faire d'erreur, elle avait le cœur battant et distinguait à peine les visages autour d'elle, tant elle était émue. Aurait-elle jamais imaginé, elle, fille chassée de sa famille, qu'il lui appartiendrait de tenir un rôle si important dans le baptême d'un roi, entre le régent de France et la comtesse d'Artois? Éblouie par ce retour de fortune, elle était pleine de gratitude à présent pour Madame de Bouville et lui avait demandé pardon de son insoumission de la veille. Tout en déroulant les langes, elle entendit le connétable s'informer de son nom et d'où elle venait. Elle se sentit rougir. Le chapelain de la reine avait soufflé 4 fois sur le corps du nouveau-né, comme aux 4 branches d'une croix, pour ôter de lui le démon par la vertu du Saint-Esprit. Puis, crachant sur son index, il lui avait enduit de salive les narines et les oreilles, pour signifier qu'il ne devait pas écouter les voix du diable, ni respirer les tentations du monde et de la chair. Philippe et Mao soulevèrent le petit roi, l'un par les jambes, l'autre par les épaules. Le régent, de ses yeux myopes, considérait avec insistance le sexe minuscule de l'enfant. Ce rose vermisseau qui mettait en échec toute sa savante combinaison successorale, ce dérisoire symbole de la loi des mâles, infime mais infranchissable obstacle entre lui et la couronne. « De toute manière, pensait Philippe pour se consoler, je suis régent durant 15 années. En 15 ans, bien des choses peuvent survenir. Serai-je moi-même vivant dans 15 ans? Et cet enfant vivra-t-il jusque-là? Mais régence n'est pas royauté. L'enfant était resté fort calme et même somnolent pendant les rites préliminaires. Il ne fit entendre sa voix que lorsqu'on le plongea entièrement dans l'eau froide. Mais alors, il hurla jusqu'à s'en étrangler. Par 3 fois, tandis que les autres parrains et marraines, Gaucher, Jeanne de Poitiers, les Bouvilles, le Sénéchal, étendaient les mains au-dessus de son petit corps nu, il fut immergé, d'abord avec la tête vers l'Orient, puis au Nord, puis au Sud, pour figurer le dessin de la croix. Jean Ier se calma aussitôt qu'on lui sortit du bain glacial et accepta paisiblement le saint crème dont on lui oignit le front. Puis on le reposa sur les coussins où Marie de Cressay se mit à le sécher, tandis que les assistants se tassaient au plus près de la chaleur des poêles à braise. Soudain, la voix de Marie de Cressay emplit la chapelle.
« Seigneur ! Seigneur, il trépasse !» s'écria-t-elle.
Tous se projetèrent vers la table. Le bébé roi avait pris une teinte bleue qui fonçait d'instant en instant jusqu'à devenir noirâtre. Il avait le corps raidi, les bras crispés, la tête tordue, et ses paupières ouvertes ne laissaient apparaître que des globes blancs. Une main invisible étouffait cette vie sans conscience, entourée de cierges vacillants et de fronts anxieusement penchés. Mao entendit murmurer « C'est elle ». Elle releva les yeux et rencontra le regard du ménage Bouvilles. « Qui a donc fait le coup pour m'en charger ?» se demanda-t-elle. Cependant, la ventrière avait pris l'enfant des mains tremblantes de Marie et s'efforçait de le ranimer.
« Il n'est pas sûr qu'il meure. Il n'est pas sûr !» dit-elle.
Le nourrisson resta ainsi rigide, distendu et sombre près de 2 minutes qui parurent infinies. Puis, brusquement, il fut agité de secousses violentes, projetant la tête en tous sens. Les membres se retournaient. On n'eût jamais cru qu'une telle force pût parcourir un corps si chétif. La ventrière devait le serrer pour qu'il ne lui échappât. Le chapelain se signa comme s'il était en présence d'une manifestation diabolique et se mit à réciter les prières des agonisants. L'enfant grimaçait, bavait. Son aspect noirâtre avait disparu pour faire place à une pâleur glacée non moins effrayante. Un moment, il parut s'apaiser, urina sur la robe de la ventrière et on le pensa sauvé. Puis aussitôt, sa tête tomba. Il devint mou, inerte, et cette fois, chacun vraiment le jugea mort.
« Il était grand temps de le baptiser !» dit le connétable.
Philippe de Poitiers ôtait de ses mains les gouttes chaudes tombées des cierges. Et soudain, le petit cadavre agita les pieds, poussa quelques cris, faibles encore mais plutôt joyeux, et ses lèvres s'animèrent d'un mouvement de succion. Le roi était en vie et il voulait téter.
Le démon s'est fort débattu avant de lui sortir du corps, dit le chapelain.
Il n'est point fréquent, expliqua la ventrière, que les convulsions saisissent les enfants si tôt. C'est parce qu'il est venu avec les fers. Cela se voit parfois. Et puis le lait de la nourrice lui a manqué pendant plusieurs heures.
Marie de Cressay se sentit coupable.
Si au lieu de me disputer avec Madame de Bouvilles, j'étais accouru aussitôt, pensa-t-elle.
Nul, évidemment, n'aurait mis en cause l'immersion en eau froide, ni aucune des tares héréditaires, boiterie, démence, épilepsie, qui reparaissaient assez régulièrement dans la famille.
« Croyez-vous qu'il est à souffrir d'autres accès ?» demanda Mao.
« C'est fort à craindre, madame, » répondit la ventrière. « On ne sait jamais quand va venir ce mal, ni comment il finit. »«
Le pauvre petit !» dit Mao bien fort.
On reporta le roi au château et on se sépara sans joie. Philippe de Poitiers ne desserra pas les dents tout le temps du retour. Rentré au palais, il laissa sa belle-mère le suivre et s'enfermer avec lui.
« Vous avez manqué de peu tout à l'heure d'être roi, mon fils, » lui dit-elle.
Philippe ne répondit pas.
« En vérité, après ce que nous avons vu, personne ne s'étonnerait si cet enfant mourait ces jours-ci, » reprit-elle.
Le régent continuait de se taire.
S'il venait à disparaître, vous seriez toutefois obligé d'attendre la majorité de Jeanne de Navarre.
Nenni, ma mère, nenni,
répondit vivement Philippe.
Nous ne sommes plus liés dorénavant par le règlement de juillet. La succession de Louis est close. C'est celle du petit Jean qui s'ouvrirait alors.
Entre mon frère et moi, il y aurait eu un roi, et je serais héritier de mon neveu. » Mao le regarda avec admiration. « Il a échafaudé cela pendant le baptême. »
« Vous avez toujours rêvé d'être roi, Philippe, avouez-le, » dit-elle.
« Déjà, quand vous étiez enfant, vous cassiez des branches pour vous en faire des sceptres. » Il releva un peu la tête et lui sourit, laissant un silence s'écouler. Puis, redevenant grave, « Savez-vous, ma mère, que la dame de Ferrienne a disparu d'Arras, et aussi les hommes que j'avais envoyés pour l'enlever et la mettre hors d'état de trop parler ? Il paraîtrait qu'elle est tenue secrètement en quelque château d'Artois, et l'on dit que vos barons là-bas s'en vantent. » Mao se demanda ce que signifiait cet avertissement. Philippe voulait-il seulement la prévenir des dangers qu'elle courait, ou lui prouver qu'il prenait soin d'elle ? Était-ce manière de confirmer l'interdiction de jamais plus recourir au poison, ou bien, au contraire, en faisant allusion à la fournisseuse, lui donnait-il à entendre qu'elle avait les mains libres ?
« De nouvelles convulsions pourraient bien l'emporter, » insista Mao.
« Laissons faire Dieu, ma mère. Laissons faire Dieu, » dit Philippe en rompant l'entretien.
« Laissez faire Dieu, ou me laisser faire moi, » pensa la comtesse d'Artois. « Il est prudent jusqu'à se garder de se souiller l'âme, mais il m'a bien comprise. C'est ce gros niais de Bouville qui va me causer le plus de tracas. »
Dès cet instant, son imagination commença de travailler. Mao avait un crime en perspective, et que la future victime fût un nouveau-né lui excitait l'esprit autant que s'il se fût agi de l'adversaire le plus féroce. Elle entreprit une campagne soigneuse, perfide. Le roi n'était pas né viable. Elle le disait à tout venant et décrivait, les larmes dans les yeux, la pénible scène du baptême.
« Nous l'avons tous cru trépasser devant nous, et il s'en est fallu de bien peu que ce ne fût vrai. Demandez plutôt au connétable qui était là, comme moi. Je n'ai jamais vu messire gaucher si fort pâlir. Chacun pourra juger d'ailleurs de la faiblesse du petit roi quand on le présentera à tous les barons, comme cela doit se faire. » À savoir même s'il n'est pas déjà mort et qu'on nous le cache. Car cette présentation tarde beaucoup sans qu'on nous en donne la raison. Messire de Bouville, paraît-il, s'y oppose parce que la malheureuse reine, Dieu la protège, serait au plus mal. Mais enfin, la reine n'est pas le roi.
Les familiers de Mao avaient charge de colporter ces propos. Les barons commencèrent à s'alarmer. En effet, pourquoi différait-on ainsi la présentation solennelle ? Le baptême à la sauvette, les prétendues dérobades de Bouville, l'impénétrable silence maintenu autour de Vincennes, tout était marqué de mystère. Des rumeurs contradictoires circulaient. Le roi était infirme et l'on ne voulait pas le montrer. Le comte de Valois l'avait enlevé secrètement pour le mettre en sûreté. La maladie de la reine, une feinte. La reine et son enfant voyageaient en ce moment vers Naples.
« S'il est mort, qu'on nous le dise, » murmuraient certains. « Le régent l'a fait disparaître, » assuraient d'autres. « Qu'allez-vous chanter là ? Le régent n'est point homme de cette sorte, mais il se défie de Valois. Ce n'est point le régent, c'est Mao. Elle prépare son forfait, s'il n'est même déjà accompli. Elle répète trop fort que le roi ne peut vivre. »
Tandis qu'un mauvais vent passait à nouveau sur la cour, qu'on s'énervait en conjectures odieuses, en soupçons d'infamie dont chacun se sentait éclaboussé, le régent, lui, demeurait impénétrable. Il s'absorbait dans l'administration du royaume, et si l'on venait à lui parler de son neveu, il répondait « Flandre, Artois, ou rentrée des impôts ». Au matin du 19 novembre, l'irritation montant, de nombreux barons et des maîtres au Parlement vinrent en délégation trouver Philippe et le prièrent avec force, le sommèrent presque, de consentir à la présentation du roi. Ceux-ci, qui s'attendaient à une réponse négative ou dilatoire, avait déjà dans l'œil une méchante lueur.
Mais je souhaite, messeigneurs, je souhaite autant que vous cette présentation, dit le régent. À moi-même, on fait opposition. C'est le comte de Bouville qui s'y refuse.
Puis, se tournant vers Charles de Valois, rentré depuis l'avant-veille de son comté du Maine, il lui demanda :
Est-ce vous, mon oncle, pour les intérêts de votre nièce Clémence, qui empêchait Bouville de nous montrer le roi ?
L'ex-empereur de Constantinople, ne comprenant pas d'où lui tombait cette algarade, devint pourpre et s'écria «
Mais par Dieu juste, mon neveu, où allez-vous chercher cela? Je n'ai jamais rien ordonné ni voulu de tel. Je n'ai même pas vu Bouville, ni n'en ai reçu message depuis plusieurs semaines. Et je suis rentré tout exprès pour cette présentation. Je voudrais fort, au contraire, qu'on la fît et qu'on revînt à agir selon les coutumes de nos pères, ce qui n'a que trop tardé.
« Alors, messeigneurs, dit le régent, nous sommes tous de même conseil et de même volonté. Gaucher, vous qui fûtes à la naissance de mon frère, c'est bien à la première marraine qu'il revient de présenter l'enfant royal au baron ?»«
Certes, certes, c'est à la marraine,
répondit Valois, vexé que sur un point de cérémonial on fît appel à une autre compétence que la sienne.
« J'assistais à toutes les présentations, Philippe, à la vôtre, qui fut petite, puisque vous étiez second, comme à celle de Louis, et ensuite de Charles, toujours la marraine. »«
Alors, reprit le régent, je vais faire savoir aussitôt à la comtesse Mao qu'elle est à tenir tout à l'heure cet office, et donner ordre à Bouville de nous ouvrir Vincennes. Nous monterons à cheval à midi. » Pour Mao, c'était l'occasion attendue. Elle ne voulut personne que Béatrice pour l'habiller, et se coiffa d'une couronne. Le meurtre d'un roi valait bien cela.
Combien de temps penses-tu qu'il faille à ta poudre pour avoir effet sur un enfant de 5 jours ?
Cela, je ne sais, madame, répondit la demoiselle de Parage. Sur les serres de vos bois, le résultat s'est montré dans une nuit. Le roi Louis, lui, a résisté près de 3 journées.
J'aurai toujours pour me couvrir, dit Mao, cette nourrice que j'ai vue l'autre jour. Belle fille, ma foi, mais dont on ne sait d'où elle vient, ni qui l'a placée là. Les Bouville, sans doute.
Ah, je vous comprends, dit Béatrice en souriant. Si la mort n'apparaissait pas naturelle, on pourrait accuser cette fille et la faire écarteler.
Ma relique, ma relique, dit Mao avec inquiétude en se touchant la poitrine. Ah oui. « C'est bon, je l'ai. »
Comme elle sortait de la chambre, Béatrice lui murmura. « Surtout, madame, n'allez pas par mégarde vous moucher. »